BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Bonjour, bienvenue, 2 heures de grands débats comme tous les jours sur BFM, la radio de l'écho. Dans une heure, cette question du moment, le devoir de mémoire doit-il entrer à l'école? Est-il possible de jumeler un enfant vivant à un enfant mort? Éducation et émotion sont-ils compatibles? Je n'en dis pas plus. Rendez-vous donc dans une heure pour les grands débats. Mais tout de suite, voilà que l'idée d'un grand parti de gauche ressurgit. Marie-Noëlle Lienemann veut unifier tous les courants de la gauche. Un appel en ce sens a été lancé, le même jour d'ailleurs que l'appel de Marianne pour une vigilance républicaine. Bonjour Marjorie Paillon.
Bonjour Nicolas Dose.
4 semaines avant le premier tour des municipales. Alors comment la gauche s'organise, Marjorie?
Eh bien la gauche essaye toutes les stratégies possibles en cette veille d'élection municipale. À Dijon, François Rebsamen s'allie par exemple au Modem. À Marseille, Jean-Noël Guérini mène une liste résolument d'ouverture et y accueille une personnalité de l'UMP. Le PS joue à 10 mois avec qui tu t'allies, je te dirai qui tu rassembles. Car il faut pouvoir rassembler au-delà du parti. Après la folle aventure des 250 000 adhérents de 2007, les compteurs sont retombés à 150 000 militants encartés. Et l'échiquier municipal pourrait bien aussi servir de socle à un affrontement entre candidats déclarés à la succession de François Hollande. Ségolène Royal, première sur la liste, sera présente sur le terrain, lundi à Poitiers, mardi à Metz, mercredi à Caen, jeudi à Saintes. Attention, vendredi à Montpellier et samedi à Nice, c'est un véritable tour de France. On attend aussi de voir si Pierre Moscovici et Julien Drey, eux aussi en lice, seront et se livreront eux aussi à des pratiques sur les marchés et des travaux pratiques de ce type-là. Mais les autres figures de la gauche ont-elles aussi envie d'occuper le terrain? Olivier Besancenot, par exemple, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, a prévu d'aller lundi à Grenoble, puis à Saint-Étienne où il tiendra une réunion publique, à Bordeaux mardi pour y rencontrer les salariés de l'usine Ford et tenir un meeting en soirée à Saint-Médard-en-Jalles.
Voilà.
C'est tout.
C'est fini.
C'est fini, mais c'est un tour de France véritable de la gauche.
Voilà. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann.
Bonjour.
Vous êtes députée socialiste européenne. Razia Hamadi est avec nous. Bonjour Razia Hamadi.
Bonjour.
Il est secrétaire national du PS à la Riposte, candidat aux élections municipales à Orly, et donc co-auteur si je puis dire, c'est un livre d'entretien, La gauche la plus bête du monde aux éditions Fête
Avec Gêne. Avec un point d'interrogation.
C'est un entretien avec Claude Villers. Et puis Olivier Dartigol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du Parti communiste, candidat aux élections municipale à Pau. Alors c'est bien ça, Marie-Noëlle Lienemann, ce qui se passe. Hein. Vous lancez un appel à un grand courant de gauche, on est bien d'accord?
Oui, l'appel que nous lançons, il est de réfléchir à un cap stratégique.
Ah, un cap stratégique.
Nous souhaitons absolument que la gauche gagne les élections municipales. Parce qu'il faut qu'il y ait les profondeurs de ce pays attendent des réponses sociales, économiques, de gauche.
D'accord. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le mot gauche?
Voilà. Donc, nous considérons qu'aujourd'hui, si on veut rénover la gauche pour qu'elle soit plus forte et plus en phase avec le peuple de notre pays, il faut que l'ensemble de ces courants se fédèrent, s'unissent et construisent ensemble, on peut dire, un parti, un grand mouvement de l'ensemble de gauche. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a eu besoin de reconstruire, refonder, rénover, on peut prendre tous les mots qu'on veut, ça a été simplement une nouvelle dynamique de rassemblement et d'unité qui a permis d'aller plus loin, de convaincre celles et ceux qui ne sont plus dans les partis politiques et qui pourtant ont le cœur qui bat à gauche. Donc notre proposition, elle est claire, elle est de dire pour faire ce mouvement, il faut qu'on fédère l'ensemble des partis sans demander évidemment à chacun de s'aligner. Et d'ailleurs, les conflits idéologiques, les débats idéologiques qui sont aujourd'hui à la gauche traversent probablement largement l'ensemble des organisations. Donc nous souhaitons un parti ouvert, pluraliste. Est-ce que nous avons voulu
faire... Donc parti ouvert, pluraliste, c'est quand même un parti. Donc ça veut dire que
c'est un parti. Nous pensons
une alternative au Parti Socialiste.
Ça part du Parti Socialiste, du Parti Communiste, de l'ensemble des partis existants, le MRC, le PRG, les clubs, et ça construit un nouveau parti qui fédère ceux qui existent aujourd'hui. Il ne s'agit absolument pas de faire un parti comme en Allemagne à la gauche du PS. Au contraire, nous disons le mode de scrutin français avec la Ve République impose ce rassemblement et c'est une chance pour la gauche de se rénover. Mais je dis bien sans nier les identités, les histoires et les apports de chacun.
Mais bon, une plus grande carrière. Est-ce que vous en êtes, Olivier Dartigol, d'un truc comme ça, d'une grande famille de gauche?
Écoutez, en tout cas, ce débat sur l'avenir de la gauche traverse aujourd'hui l'ensemble des formations politiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est à 20 jours d'un scrutin très important, c'est celui des élections municipales et cantonales. nous sommes tous les trois engagés sur le terrain de cette campagne-là, nous mesurons les conséquences terribles des politiques menées par la droite dans ce pays 10 mois après l'élection de Sarkozy. Nous voyons bien, et le Parti communiste français a très tôt lancé cet appel, la nécessité des rassemblements les plus larges à gauche, mais rassemblements à gauche. Je suis préoccupé en effet par des situations dans certaines villes de recomposition politique. Être de gauche dans ce pays, ce n'est vraiment pas vouloir faire un bout de chemin avec la droite. D'ailleurs, j'appelle tout le monde à être très attentif à la situation à Pau, seconde ville d'Aquitaine, puisque le rassemblement de la gauche conduite par Martine Mercassou avec le Parti communiste, les Verts, les radicaux de gauche est en train de faire mordre la poussière à François Bayrou. Donc voilà que le président du MoDem en ces terres peut être battu. Je vous le dis parce que ce sera une donnée importante de la prochaine période. Donc pour l'instant, on est à 20 jours. Les rassemblements, clairement à gauche, il nous les faut, et sur des contenus, sur des politiques municipales à la hauteur d'une situation très évolutive, parce que la précarité s'étend dans ce pays. Et après, bien évidemment, après cette séquence politique, pour ce qui concerne le Parti communiste français, nous avons décidé d'un congrès important au mois de décembre. Nous avons commencé un travail de diagnostic, de réflexion très large.
D'accord, mais vous y allez dans la nouvelle famille de gauche ou vous n'y allez pas ?
Donc, le Parti communiste aura un congrès. Il a déjà acté un certain nombre de choses. D'abord, ne pas renoncer à l'idée de la transformation sociale. Donc, je crois, Marie-Noëlle Nielmann nous parle aujourd'hui d'une structure. Moi, j'ai besoin qu'on passe par la case pour quel projet, pour quel contenu. On a besoin de construire des convergences fortes, des fronts à géométrie variable. Peut-être sur les contenus les plus élevés, on aura les européennes dans la foulée. Donc, je pense, moi, je suis plutôt là-dessus, pas sur une, je vous réponds directement, une organisation ex nihilo qui pourrait surgir je ne sais d'où, sur vraiment un travail de fond pour quelle politique. Parce que si la gauche a perdu dans ce pays, c'est surtout parce qu'elle n'a pas été au rendez-vous de la bataille idéologique telle que l'avait amenée Sarkozy.
Alors, Razi Hammadi, quel est votre point de vue sur ce qui a été dit?
Écoutez, moi, mon point de vue, c'est que je rejoins évidemment ce qui a été dit. Moi, je suis un partisan de l'union de la gauche.
L'union de la gauche,
c'est pas, pour moi, c'est pas un parti. Ça doit être une fédération de la gauche. Parce que si on veut préserver l'identité de chaque entité et la mettre en dynamique autour d'une entité commune.
Mais il y a un moment où les gens doivent voter.
Je pense qu'il faut que ça soit une fédération. Moi, je pense qu'il faut un calendrier clair. Mais je pense aussi qu'il faut peut-être un peu plus d'imagination. Je veux dire quoi par là ? Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des mouvements associatifs, culturels, conscientisés politiquement, y compris dans nos quartiers populaires, qui pèsent idéologiquement et électoralement plus que certains partis qui aujourd'hui viennent négocier à la veille des premiers tours d'élections, quelles qu'elles soient, leur place sur telle et telle liste. Je parle évidemment d'organisations comme Assez le Feu. Ils ne sont pas politisés en tant que tels, sauf qu'aujourd'hui ils réfléchissent à leur implication politique. Oui, ils sont à gauche, mais c'est une association. Je pense à des organisations telles que Devoir de Mémoire, Devoir de Réagir. Je pense que ces associations-là ont une empreinte culturelle, une dynamique intellectuelle, une capacité à créer, à dépasser ce qui fait les clivages classique de la gauche depuis 30 ans.
Vous allez mettre les partis plus les associations et faire un grand
adjornamento. Mais vous savez que la Ligue des droits de l'homme en 71 était représentée au congrès d'Épinay. C'est, je pense, ça qui nous manque. C'est le fait de redevenir le lieu qui est le réceptacle et la rencontre des débats, de la création et de l'innovation. Le but, c'est pas de refaire ce qu'on a fait avant, mais en mieux.
Alors, Marie-Noëlle Lindemann, allez-y, poursuivez. Parce
justement,
que
moi, nous avons fait cette proposition. D'abord, on l'a faite parce que, justement, nous pensons que l'axe stratégique, c'est le rassemblement de toutes les forces de gauche, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives ou citoyennes. Et que par rapport au débat sur les alliances à géométrie variable, on a toujours eu des personnalités, mais des alliances politiques à géométrie variable, ça, je ne suis pas d'accord.
Syndicale, par exemple, ce serait Sud aujourd'hui, l'opposition syndicale.
Tous ceux qui se retrouveraient dans la volonté de construire un grand mouvement de la gauche. Deuxièmement, pourquoi justement nous avons parlé d'un grand parti ou d'un grand mouvement et pas simplement d'une fédération des forces? Parce que
c'est pas la fédération.
Ça va plus loin que la fédération. Parce que quand on va admettre dans la fédération des différents partis, on l'a fait depuis un certain nombre de temps, et en particulier comité de liaison, etc. C'est qu'on reste avec justement toute cette masse des militants de gauche qui sont mal à l'aise dans le paysage aujourd'hui, qui n'arrivent pas à y trouver leur place. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une étape vers cela. Moi, mon souhait, c'est que dans chacun de nos congrès, il ne s'agit pas d'aller plus vite que la musique, de décréter à la place des forces politiques. C'est que dans chacun de nos congrès soit actée l'idée qu'on va ensemble construire quelque chose de neuf qui représentera la gauche. Et le fond n'est pas séparable de la forme.
Alors, d'accord,
c'est
le
aussi
fond des
parce
pas...
qu'une partie des gens, le monde du travail, le monde ouvrier, une partie du mouvement syndical et du mouvement associatif ne se sent pas suffisamment prise en compte dans l'identité de la gauche, que le contenu de cette gauche
d'accord.
est plus centriste que la réalité de ce que représente la gauche dans ce pays.
Écoutez, vous allez pouvoir réagir tous les deux, Olivier d'Artigol et Razia Mehdi, après une courte pause.
Chaque matin à 6h50 et le soir à 19h55, retrouvez Compétences, la chronique emploi de BFM. Quel que soit votre secteur d'activité, découvrez chaque jour de nouveaux postes à pourvoir avec MediaRH.com, le premier site d'emploi qui donne au quotidien la parole aux entreprises qui recrutent.
Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de 01 Informatique.
Cette semaine, un dossier sur la virtualisation, la tendance technologique à la mode. Non seulement elle optimise l'infrastructure, mais en plus elle réduit les coûts. L'événement, c'est aussi le défi lancé par une jeune société américaine Juniper au géant Cisco. Enjeu, contrôler une partie des réseaux mondiaux. Une enquête enfin sur les nouveaux outils de vidéoconférence. C'est cher, mais le réalisme est époustouflant.
Retrouvez 01 Informatique, le leader de l'information high-tech, le jeudi chez votre marchand de journaux, 3,50€.
Dites-moi, le site web de votre PME, si vous voulez qu'il vous rapporte, c'est comme un chien, hein, il faut s'en occuper. Avec les webmasters de One Digital, réagissez et ne laissez pas votre site dépérir.
One Digital, l'agence qui rentabilise la présence des PME sur le web. One Digital, 0811 09 08 07, prix d'un appel local ou onedigital.fr.
BFM, la radio de l'écho.
Les marchés avec VMware, leader mondial des solutions de virtualisation pour l'optimisation des infrastructures informatiques.
BFM, il est 10h15, les marchés avec Laurent Mimouni.
Le CAC 40 en belle hausse, plus 1,08%, 4823 points. L'euro vaut actuellement 1,46$. Et le brut léger américain tourne autour des $95. Focus marché sur les réhausseurs de crédit qui font l'objet d'un ultimatum. Et ils ont désormais 5 jours pour présenter des plans de recapitalisation fiables. Antoine Larigauderie.
Le temps presse, c'est ce que nous dit Elliott Spitzer, le gouverneur de New York, qui est le grand architecte de ces négociations. Plus on attend, plus la qualité des actifs de ces réhausseurs de crédit se détériore. Et si leurs notes de crédit sont encore abaissées, c'est autant de dépréciations massives supplémentaires pour l'ensemble du secteur bancaire. Il y a quand même 2000 milliards de dollars de créances en jeu. Mais on a affaire à un problème d'une complexité inouïe. Certains ont pris le taureau par les cornes et planchent sur des plans d'injection. Warren Buffett est prêt à garantir certaines créances. Il n'est pas fou, hein, uniquement les plus sûrs. Donc certains réhausseurs, voyant cela, sont tentés par une scission. On ne garde que les crédits les plus solides et on sépare des créances les plus risquées. Mais qui pourra être repreneur ? Bref, le compte à rebours a commencé. En ultime recours, on peut peut-être anticiper un geste massif des autorités d'État, mais pour l'instant, elles refusent d'intervenir directement.
Merci Antoine Larigauderie. Je vous rappelle, le CAC plus 1,08%, 4823 points.
Un point bourse tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
Et tout de suite, on retrouve Nicolas Dose, les grands débats.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
Faut-il ressusciter Épinay 1971 ? Paul Quillès, ancien ministre, Marie-Noëlle Lienemann, eurodéputé socialiste, lance l'idée d'un parti de la gauche. D'ailleurs, déjà dans le Pas-de-Calais, le PS, le PCF, le PRG, le MRC font liste commune à Hénin Beaumont face à Marine Le Pen. Marie-Noëlle Lienemann est deuxième de liste dans cette ville du Pas-de-Calais. Elle est avec nous en débat ce matin, ainsi que Razia Hamadi, secrétaire national du PS à la riposte, qui lui est candidat à Orly. Il est co-auteur de « La gauche la plus bête du monde » point d'interrogation aux éditions FEDGEN, livre d'entretien réalisé avec le journaliste Claude Villers. Et puis Olivier d'Artigol est avec nous, il est porte-parole du Parti communiste français et candidat aux élections municipales à Pau. Olivier d'Artigol, à l'instant, Marie-Noëlle Lienemann. On va parler aussi du fait que la LCR ne fait pas partie, Marie-Noëlle Lienemann.
On n'a jamais dit qu'il ne faisait pas
partie.
Bah c'est ouvert à tout le monde.
Bon, vous allez nous voir. On va voir ça. Je voudrais quand même que vous réagissiez, Olivier d'Artigol. On ne peut pas dissocier le fond de la forme. Toute la question est quand même de savoir quelle sera la clarté électorale des gens, puisque mettre effectivement des grands courants de pensée ensemble pour réfléchir, c'est une chose. Fonder une nouvelle famille politique, c'en est une autre.
La question, il n'y en a qu'une et j'en vois pas d'autres. Il s'agit de s'en emparer très très rapidement. C'est l'urgence de reconstruire un espoir à gauche dans ce pays. Parce que ce que nous mesurons...
Ça, sont les idées, tout le monde est d'accord.
Non, mais attendez, mais laissez-moi développer ne serait-ce que 30 secondes. Comme ça, peut-être que vous allez un peu m'accompagner dans le cheminement de la réflexion du Parti communiste français. Donc, un, reconstruire un espoir à gauche. Nous en avons besoin parce que n'oublions pas que par trois fois dans ce pays, la gauche a représenté un immense espoir. Par trois fois, elle a déçu, elle a été battue. Et par trois fois, c'est une droite encore plus dure qui est arrivée aux affaires jusqu'à aujourd'hui, Sarkozy. Pour moi et pour ma génération, il y a véritablement l'urgence d'ouvrir un nouveau chapitre à gauche. D'être audacieux sur ce nouveau chapitre. Donc là-dessus, je pense réellement, et je le dis, que ça passera par notre capacité à construire un contre-projet, aller chercher Sarkozy dans la bataille idéologique.
D'accord.
Parce que n'oublions pas que s'il a gagné nettement, c'est que cette nouvelle droite était fin prête pour mener cette bataille idéologique. Et bien sûr, il nous faudra trouver, ça va être dominé par 2012, sitôt après les municipales. Il y aura les européennes, mais le grand débat sera celui de 2012. Là, on paye cash des décisions qui ont été prises au temps de la gauche plurielle, le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral. Je suis très préoccupé par la personnalisation à outrance de la vie politique aujourd'hui, par la difficulté pour approfondir des questions
D'accord,
de contenu. C'est du zapping permanent.
Donc,
un contre-projet de gauche reconstruit un espoir par des idées. Et deux, bien évidemment... Il ne faut pas, pour reprendre le titre, que cette gauche soit la plus bête du monde. Il nous faudra, les uns et les autres, réfléchir à la manière de créer une dynamique politique pour les présidentielles et législatives, parce qu'il faut une majorité de gauche dans ce pays. 10 ans de sarkozisme, ça ne serait pas possible. Et donc, là-dessus, je vais vous dire quelque chose. Les communistes prendront leurs décisions souverainement, mais je souhaite que mon parti soit au rendez-vous de ce qui peut faire naître du neuf à gauche.
D'accord, entendu. Berazi Hamedi, allez-y.
Moi, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Olivier d'Artigol. On a eu l'occasion à plusieurs reprises d'en discuter ensemble. Et sur cette analyse, nous sommes très proches. On en a parlé longuement dans sa région cet hiver, pendant des heures. Ce fut un plaisir d'ailleurs. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, déjà, en effet, la question du projet. Mais avant ça, moi, je pense qu'il faut qu'on ait un calendrier précis. Moi, j'avais proposé dans une
2012,
tribune,
ils viennent nous dire, le
dans une tribune qui avait été publiée par Libération, non pas seulement 2012.
2009.
Non. 2009, nous
mars
avons,
2008.
2009, nous avons des européennes. Nous aurions pu avoir des états généraux de la gauche sur la question européenne. 2010, nous avons, je crois, des cantonales encore. Là aussi. Et les régionales, excusez-moi. Là aussi, nous étions en capacité d'avoir des états généraux de la gauche sur des questions précises, avec des thématiques particulières. Il ne faut pas seulement dire 2012. Mais en même temps, 2012, oui, moi je suis pour des primaires à gauche, concrètement, avec un candidat unique de la gauche à
un
ce
candidat
terme.
Candidat unique de la gauche en 2012.
Tout à fait.
Une sorte de nouvelle alliance de la gauche française.
Au terme de cette primaire à gauche, comme ce qui s'est passé en Italie. En plus, nous, on n'aurait pas la menace de cette proportionnelle intégrale qui fait qu'il y aurait instabilité. Et puis, en avant de cela, en préparation, un comité de liaison qui ne soit pas simplement un comité de liaison où on se voit tous les deux mois pour faire des déclarations communes pour dire, regardez, il y a encore des ponts entre la gauche, mais où on travaille ensemble sur la communication, sur l'anticipation, sur la programmation,
etc. Vous n'êtes plus vraiment sur l'idée de la fédération, là.
Mais si, c'est une fédération. Ouais. Il y a des partis et ils se retrouvent dans une fédération qui a vocation à préparer l'alternative.
Il y aura un candidat fédéré en 2012.
J'espère. Deuxième chose, en tout cas, je le souhaite, mais il ne sera pas élu seulement s'il y a des primaires à gauche par les adhérents des partis.
Donc il faut
par
les citoyens aussi. C'est très difficile.
Par les citoyens aussi.
Oui,
et là, dans ce cadre-là, les associations citoyennes qui se mobilisent sur le terrain, etc., auront toute leur place bien au-delà d'un simple parti. Deuxième chose, enfin, que je voulais vous dire, parce qu'on n'en parle jamais à la télé ou à la radio.
Allons-y.
C'est un parti politique, que ce soit le Parti communiste ou le Parti socialiste, il est composé de fédérations. D'accord ? Et elles, les fédérations, elles ne sont pas sous le feu du projecteur. Et nous avons des attitudes aujourd'hui, que ce soit au Parti communiste ou au Parti socialiste, qui ne sont pas acceptables. Et je pense que la première rénovation, elle doit commencer dans les fédérations des appareils politiques. Je vous prends plusieurs exemples. La question
trop,
des
mais...
alliances. La question des alliances. Au niveau national, que ce soit pour le PS ou le PC, les choses sont claires. On a voté une position unanimement acceptée par les différents représentants dans les instances, conseils nationaux, bureaux nationaux, etc. Et puis localement, nous avons une SFIOisation qui touche aussi
une SFIOisation,
à ça. Oui, qui touche, c'est-à-dire où on pense que localement on peut faire ce qu'on veut et qu'une somme d'intérêts particuliers locaux peut faire un
nous
intérêt
nous
général
pas
national.
Tous touchés à la même ampleur.
Mais je suis pas sûr.
On est d'accord. Touchés à la même ampleur.
Mais le PC n'a pas quitté la liste.
Je suis pas sûr que les auditeurs soient passionnés par les guéguerres de fédération.
C'est pas des guéguerres de fédération.
Mais vous, c'est votre existence.
Non, c'est pas ça. Pas du tout. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si on veut aussi rénover la gauche, ça passe par des pratiques. Alors, et les pratiques, elles se font dans les fédérations.
Marie-Noëlle Lienemann, PS, PCF, PRG, MRC, Aéna Beaumont, est-ce que c'est ça votre famille de la gauche aujourd'hui?
C'est celle-là, mais ça pourrait être les Verts.
Ça peut être la LCR aussi.
Et ça peut être. Moi, je n'ai pas d'a priori. La question est de savoir si ce parti que nous voulons construire de l'ensemble de la gauche a vocation à gouverner ou non.
Je suis d'accord. Donc, voilà. Est-ce que c'est un parti de gouvernement?
C'est à la fois un parti de gouvernement et un parti de contestation. Car la gauche conteste l'ordre établi, veut l'améliorer, veut le changer. Oui. Donc nous devons marcher sur nos deux pieds, être à la fois capable d'assumer nos responsabilités, mais de contester l'ordre établi pour le transformer. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'on est devant une crise, et Olivier Dartigue a raison, devant d'abord une crise des idées, d'abord une crise des propositions. Alors, c'est d'autant plus paradoxal, et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on ait le sens des responsabilités rapidement, c'est que nous avons une inversion qui s'opère au niveau mondial. La crise financière, les changements de point de vue aux États-Unis, où on conteste plus aux États-Unis aujourd'hui, en tout cas dans les sondages, la mondialisation qu'en France. Déjà, en France, c'est assez contesté. Donc, on est dans une nouvelle donne mondiale.
Très clairement. Et donc, on n'a pas parlé suffisamment pendant la campagne présidentielle.
Par exemple, je donne un exemple. Partout, les États reprennent la main, par exemple, par des fonds souverains. Partout,
ça, ce sont les États qui ont de l'argent. Hein, qui
voilà,
la main
mais, oui, mais attendez, on n'est pas pauvre en France non plus si on voulait s'en donner
40 milliards pour la CDC.
Non, 200... mais attendez, 30 secondes, il n'y a pas que la CDC, il y a les fonds de retraite. On pourrait très bien considérer aussi qu'il y a des possibilités. Je donne un exemple. Prenons Total, il fait des surprofits. Tout le monde dit, il faudrait taxer Total. Ah non, on ne peut pas, parce que sinon Total ne va plus pouvoir investir. Mais il y a une façon simple, puisque Total rachète ses actions. C'est qu'on paye les taxes des surprofits, je ne parle pas de l'impôt normal, en capital pour l'État, et qui constituerait des acquis pour des fonds souverains. Je donne cet exemple pour dire qu'il y a des inversions qui se passent dans le monde. Ouais. La laïcité devient une idée qui devient une de nouveau débattue dans le monde. La France devrait être là, la gauche française devrait être au rendez-vous. Donc ce que je donne comme exemple, c'est de dire qu'on est à un moment historique majeur. Et ne faisons pas de la guérilla d'appareils où on va chercher des queues de cerises qui nous divise, et il faudra faire avec tout le monde.
D'accord.
Moi, je ne suis pas d'accord avec Dominique Strauss-Kahn sur plein de sujets, mais je ne vais pas faire la gauche contre Dominique Strauss-Kahn et ses amis. Je ne veux pas faire la gauche contre les sociodémocrates. Je dis la dynamique que nous créerons, elle nous recalera, à condition évidemment que tout le peuple de gauche s'y trouve impliqué.
On doit marquer une deuxième pause, vous allez réagir dans un instant, vous qui êtes à mes côtés. Vous me direz quand même, Marie-Noëlle Lienemann, si cette histoire de LCR, c'est une réaction erronée de la part des agences de presse, ou si véritablement
les agences de presse. Moi, je n'ai absolument jamais d'ostracisme contre personne.
On en parle dans un instant, restez avec nous sur cette idée d'un grand parti de la gauche.
Écoutez BFM Radio en numérique sur le câble et le satellite.
Je crois quand même que la société a bougé. On peut pas dire qu'il s'est rien passé. Je crois qu'il y a quand même un sentiment maintenant de prise de conscience que le pays doit bouger.
Ça n'a pas encore été assez mal pour qu'on puisse espérer que ça aille mieux.
Écoutez la radio de l'écho partout en France. BFM Radio à Lille sur 96.4.
Moi, j'ai jamais été embarrassé par les œillères idéologiques. J'ai toujours considéré qu'entre le marxisme et le libéralisme, il y avait un champ ouvert, qu'on pouvait être partisan d'un système de marché avec des mécanismes de régulation sociale forts.
BFM Radio à Toulouse sur 107.2.
Les gens étaient tout à fait prêt à ce que les autres fassent des efforts, mais certainement pas eux-mêmes.
BFM Radio à Orléans sur 99.7.
Il faut accepter le débat aussi sur les questions économiques.
Rennes 102.4.
Les hommes de marché, j'en suis un paraît-il, sont devenus maîtres du monde.
Écoutez BFM Radio partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmradio.fr. BFM Radio, où vous voulez, quand vous voulez.
BFM, la radio de l'écho.
BFM, il est 10h27, les marchés financiers avec Guillaume Sommerer. Bonjour Guillaume.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le CAC 40 progresse d'1,4%, 4839 points. Tout est vert en Europe. On retrouve Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Le yo-yo continue. Bien, Jean-Louis n'est pas avec nous apparemment. C'est pas grave, on va voir tout de suite les valeurs qui progressent sur le CAC. Michelin notamment, plus 2,9% à 61,20€. Capgemini également gagne 2,5% à 37,50€. En repli, en revanche, et contre la tendance, Société Générale, le titre perd 0,9% avant jeudi ses résultats annuels. Le CAC 40 gagne donc 1,4%. L'euro se maintient au-delà du dollar 46, hein, 46,36. Le baril de Brent vaut actuellement 94,60 $.
Cotation, valeur, variation en temps réel, 36,67. Le numéro boursier de BFM Radio, 34 centimes la minute.
Dans deux minutes, il sera 10h30. L'essentiel de l'information, Laurent Mimouni.
33 personnes interpellées ce matin à Villiers-le-Bel et dans des communes voisines lors d'une opération de police de grande ampleur. 1 millier de policiers mobilisés pour interpeller les personnes soupçonnées d'avoir tiré sur les forces de l'ordre lors des émeutes de novembre dernier. Ségolène Royal dénonce une opération policière médiatisée à quelques semaines des élections municipales. François Bayrou appelle à ne pas mélanger justice et mise en scène. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discutent aujourd'hui de la position à tenir au lendemain de la proclamation d'indépendance du Kosovo. La désunion devrait prévaloir puisque plusieurs États parmi les 27, notamment la France, ont déjà annoncé qu'ils reconnaîtraient le nouveau pays, tandis que d'autres États affichent la position inverse. La nuit dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni en urgence à la demande de la Russie, s'est lui aussi séparé sur un constat de divergence. Au Pakistan, 80 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans une atmosphère de violence permanente. Quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote, d'ailleurs, 6 personnes ont été tuées la nuit dernière, parmi lesquelles un candidat de l'opposition pour les élections provinciales. La Ligue de football professionnel va déposer une plainte aujourd'hui après des insultes racistes dont a été victime un joueur du FC Metz ce week-end sur un stade. Le joueur en question, Abdeslam Ouadou, ainsi que son club ont déjà porté plainte. L'auteur des insultes est toujours en garde à vue. Au niveau sportif, la Ligue 1 est relancée après l'écrasante victoire de Bordeaux à Monaco 6-0. Les Bordelais sont désormais à 1 point du leader Lyon, battu au Mans samedi soir. Et puis en voile, le français Franck Camas abandonne son tour du monde en équipage. Son bateau engagé dans le trophée Jules Verne a chaviré au large de la Nouvelle-Zélande. Les 10 hommes d'équipage sont sains et saufs.
BFM, il est 10h30. On passe à l'économie, Laurent.
Le choc à la City, la banque Northern Rock va être nationalisée. Une nationalisation présentée comme temporaire, mais c'est tout de même la première opération du genre en Grande-Bretagne depuis les années 70. Le gouvernement britannique estime que les deux offres reçues ces dernières semaines ne valorisent pas correctement l'établissement. Pour Charles de Croisset, conseiller international chez Goldman Sachs Europe, il est normal que les pouvoirs publics soient garants de la liquidité des banques en dernier ressort.
La liquidité des banques est un élément de sécurité collective. Ça veut dire que si vous allez à votre banque, eh bien vous pouvez récupérer votre argent. C'est un élément fondamental dont les pouvoirs publics doivent inévitablement être garants.
Les pouvoirs publics et donc le contribuable en dernier ressort vont venir sauver les spéculateurs.
Oui, enfin, Northern Rock n'est pas une banque qui est spéculée. Simplement, c'était une banque qui avait un modèle économique qui, dans des circonstances comme celles que nous vivons, comporte des risques. Elle a eu du mal à se refinancer. Il n'est pas du tout certain que le contribuable perde de l'argent. Ceux qui perdent de l'argent, ça c'est sûr, ce sont les actionnaires de la banque. Et d'ailleurs, les actionnaires actuels ont annoncé en Grande-Bretagne leur intention d'introduire des instances judiciaires contre cette mesure.
Charles de Croisset, conseiller international de Goldman Sachs Europe, il répondait ce matin aux questions de Stéphane Soumier sur BFM. Toujours dans le secteur bancaire, le Crédit Agricole cherche à étoffer son réseau en Italie. L'établissement français a déposé une offre d'1,7 milliard d'euros pour le rachat de la Banque des Marches, une banque régionale dans le centre de la péninsule. C'est une semaine tendue sur les dossiers sociaux qui s'ouvre aujourd'hui dans le public, d'abord avec une rencontre gouvernement-syndicat aujourd'hui sur la revalorisation des traitements des fonctionnaires. Les caisses sont vides et les syndicalistes le savent très bien, a prévenu ce matin le secrétaire d'État à la fonction publique, André Santini. Dans le privé, à l'usine Kléber de Toul, la pression est légèrement redescendue ce week-end après la libération de 2 cadres séquestrés par des grévistes. Michelin se dit prêt à faire évoluer le plan d'accompagnement prévu pour la fermeture du site. Et puis une grève va toucher aujourd'hui le groupe L'Oréal à la veille d'une négociation salariale, alors que le géant cosmétique a dégagé un bénéfice net record l'an dernier. Enfin, des représentants des salariés de l'usine Mico de Saint-Dizier vont être reçus dans la journée par le ministre du Travail, Xavier Bertrand. La moitié des 493 emplois du site sont menacés. Xavier Bertrand qui précise par ailleurs qu'un projet de loi sera déposé au printemps pour demander aux entreprises qui bénéficient d'allègements de cotisations de jouer le jeu des salaires, selon ses propres termes. Nous allons tangenter les 2% de croissance en 2007, expression de Christine Lagarde. Pour 2008, la ministre de l'économie a refusé de confirmer si ses services travaillaient effectivement sur un scénario à 1,6% de croissance. BFM, il est 10h33.
BFM, un journal de l'économie, toutes les demi-heures.
Et on retrouve Nicolas Dose et ses invités pour les grands débats.
BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Paul Quilès, ancien ministre, Marie-Noëlle Lindemann, eurodéputée, lance l'idée d'un grand parti de la gauche. On en parle ce matin avec Marie-Noëlle Lindemann, qui est donc eurodéputée et deuxième de liste à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Liste donc d'union de la gauche, puisqu'on y trouve les principales familles. Enfin, il n'y a pas les Verts, il n'y a pas non plus la LCR, mais il y en a beaucoup face à, vous le savez, Marine Le Pen, qui est deuxième de liste sur la liste Front National. Également avec nous, Razi Hamadi, secrétaire national du PS à la Riposte. Lui est candidat à Orly. Il est co-auteur de La gauche la plus bête du monde, point d'interrogation, aux éditions FedGen, livre d'entretien avec le journaliste Claude Villers. Et Olivier D'Artigol, porte-parole du PCF, lui qui est candidat à Pau. Alors un mot, Marie-Noëlle Lindemann, sur cette histoire de LCR. On a parlé donc de votre appel à l'union de la gauche, mais tout le monde a dit, oui, tout le monde sauf la LCR. C'est une erreur. C'est...
Oui, oui, nous, on a exclu personne.
D'accord.
Simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous pensons qu'un parti de gauche a vocation à gouverner.
D'accord. Non, mais...
Donc tous ceux qui pensent qu'on peut gouverner et transformer la société en même temps sont les bienvenus. Ceux qui considèrent que le gouvernement est par nature quelque chose de suspect et qu'il vaut mieux s'appuyer sur des mouvements sociaux uniquement pour changer des choses, évidemment, ne
donc,
se retrouveront
si
pas facilement.
Même si les trotskistes de la LCR se proposent avec la volonté de vous accompagner, vous êtes d'accord?
Ah bah absolument.
D'accord,
non,
entendu.
Mais
non, mais très
pas...
bien. Razi Hamadi.
Moi, non, j'ai un petit problème avec la LCR. Par ailleurs, Olivier Besancenot est un ami, on en discute. Mais on ne peut pas seulement dire on est de gauche quand il faut s'opposer à la droite, mais quand il faut porter un projet et aller aux élections et gouverner, on n'en est pas. Et donc, pour moi, c'est aussi une condition sine qua non à leur acceptation dans un front d'opposition. Moi, je ne suis pas pour... je veux dire, on ne peut pas dire quand il faut s'opposer, on est tous ensemble, et quand il faut proposer, on y va à front des unis.
Je pense que vous aurez du mal à vous mettre d'accord sur tout avec
voilà.
La LCR, très
donc,
honnêtement.
Donc, très rapidement...
Dans la mesure où il faut une tête unique en 2012, comme disait Razi Hamadi.
Très rapidement, je pense qu'il faut, voilà, il faut construire. Et par ailleurs, Marie-Noëlle Lindemann poser des clivages intéressants qui sont anciens, qui sont présents et qui sont d'actualité entre la gauche et la droite. Je pense qu'on peut aussi en inventer des nouveaux.
Absolument.
Par exemple, le renversement de la pyramide des âges. Est-ce que la droite le prépare? Est-ce que les néolibéraux, est-ce que les libéraux le préparent? Le fait qu'une société, pour la première fois dans l'histoire, hors période de guerre et de famine, vive avec les jeunes minoritaires dans la société. Ce que ça
tout
a comme incident...
Tout le monde en parle depuis longtemps.
Oui, mais qui est-ce qui prépare? Aujourd'hui, je pense que la gauche est la mieux outillée, tant en termes de fiscalité que de finances locales, que d'adaptation aujourd'hui de nos modes de transport, d'urbanité, de droit à l'urbanisation en termes d'accès pour les personnes âgées au plus grand nombre à ce que sont aujourd'hui les nouveaux modes de transport. Je pense que la gauche est la plus outillée. Vous savez, du point de vue philosophique, on pourrait décrire ça à travers deux termes. Pour moi, aujourd'hui, la droite, c'est l'avoir immédiat. C'est le hamster qui court dans sa roue, c'est Nicolas Sarkozy, c'est l'immédiat, c'est l'instant. Nous, on doit faire une politique pour les enfants et pour les générations
à venir. J'imagine le dessin de presse déjà.
Et nous, ça doit être l'être durable. C'est-à-dire cette liaison qui existe entre le développement durable, cette volonté de préserver la planète économiquement,
oui,
du point de
d'accord.
vue des ressources.
Ça, c'est une très grande idée qui est parfaitement...
Une...
Oui, je suis d'accord, Razi Hamadi. Mais il y a un moment où il y aura des réformes
très concrètes. Mais quand je vous parle d'être durable, c'est aussi prendre en compte la survie de l'être humain dans un système économique où on voit qu'aujourd'hui, sur les chaînes de montage, nous avons un suicide par jour. Et que donc la question de la répartition du temps de travail tout au long de la vie et tout au long de la semaine ne peut pas se régler par un slogan du type travailler plus pour gagner plus. D'ailleurs, les Français travaillent plus pour gagner moins en ce moment.
Alors, allez-y, Olivier D'Artigol.
Juste une chose, parce qu'il ne faudrait pas passer par pertes et profits cette question-là. N'oublions pas que les prochaines élections à venir, dans 20 jours, sont sous tension de tentatives de recomposition politique.
Ça y va dans tous les sens, elle le disait Marjorie Payon dans son introduction.
Donc j'attire l'attention là-dessus, on avait vu s'amorcer ça de manière très préoccupante dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Et aujourd'hui, malheureusement...
Vous faites référence à l'hypothèse d'une alliance royale Bayrou, c'est ça?
Oui, ce qui a
d'accord,
été énoncé.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on voit que
PS
la gauche...
Bayrou.
Pardon, Razi, on voit que la gauche est sous tension. Ou alors nous arrivons à dégager des majorités politiques clairement de gauche sur des propositions et des projets qui véritablement sont à la hauteur des enjeux. Je pense que la gauche aujourd'hui, en termes programmatiques, elle ne peut pas simplement faire des copier-coller par rapport à des propositions d'avant. Je crois, par exemple, j'étais il y a quelques jours avec des personnels hospitaliers. Lorsque des majorités de gauche, et le Parti communiste français en a fait partie, sa gauche plurielle, mettent en place la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière comme ça a été mis en place, ce n'est pas une politique de gauche. Et c'est pour cela que nous avons été sanctionnés. Donc des majorités claires sur des contenus réellement de gauche, et il va falloir, on en discute quand on se retrouve à Erasie, véritablement apporter des réponses claires sur être de gauche aujourd'hui, sur des grandes questions, celle de l'emploi, celle de la protection sociale, celle des services publics, celle de l'Europe, ça veut dire quoi ? Celle de l'environnement, etc. Et il faudra aussi donner la vérité des prix, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans un certain nombre de villes en France des responsables de premier niveau du Parti Socialiste qui ne font pas simplement des œillades appuyées au MoDem, mais qui sont d'ores et déjà sur des recompositions avec des listes au premier tour et qui aussi, dans de très grandes villes de France, préparent l'entre-deux tours pour des majorités, allez, disons, de centre-droit. La grande question à gauche, c'est est-ce qu'on peut reconstruire un espoir avec une gauche bien à gauche ou est-ce que la recomposition va aller vers la structuration, allez, d'un parti démocrate préparant des alternances, douces, fades, par rapport à la droite aujourd'hui au pouvoir. Et si c'est ça, il y aura dans notre pays une situation d'urgence sociale et de précarité qui explose.
En un mot, parce que je veux que Marine Lehmann s'exprime juste après, lorsque vous entendez le Parti Socialiste récemment à la Mutualité qui reconnaît officiellement les mérites de l'économie de marché avec ses limites, mais les mérites de l'économie de marché, c'est pas votre tasse de thé.
Non mais ça, la chose est entendue. Le fait que le Parti Socialiste... ça fait un moment que le Bad Godesberg du Parti Socialiste est réalisé. Je souhaite simplement, après il y aura un débat qui relève là où on met le curseur lors du prochain congrès au sein du Parti Socialiste. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'au moins soit réglée la question stratégique. Est-ce qu'une majorité claire se dégage au sein du Parti Socialiste pour des majorités de gauche tout aussi claires qui refusent toute alliance avec une partie de la droite ? Ça, c'est une question d'importance et d'avenir.
En fait, ce qui s'organise, c'est la résistance à Nicolas Sarkozy plus que...
Non.
Parce qu'effectivement, il y a un côté démocrate-républicain qui est en train de mettre en
place. La question que pose Olivier Dardigol est fondamentale. Est-ce que nous pensons que la gauche de ce pays est capable de répondre aux besoins de nos concitoyens et de porter un projet, un espoir, en se faisant des majorités avec le centre, et d'ailleurs, du coup, en se décalant dans son projet sur une vision centriste, ou est-ce que nous pensons que le levier pour la reconstruction et pour l'espoir se joue d'abord dans les alliances et la fédération et le regroupement et le rassemblement et l'unité de la gauche ? Le pari, et je pense que l'actualité nous pousse à cela, car on parle du MoDem, mais on le construit, le MoDem. C'est un ovni aujourd'hui. Il y a une personnalité, François Bayrou qui a des qualités, etc., mais c'est une personnalité. On est en train de légitimer l'installation d'un sens. Ça n'a jamais marché.
C'est un parti sans élus, ça c'est très
clair.
Donc,
premièrement, nous ne sommes pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec les camarades du Parti Socialiste qui font des alliances avec le MoDem. Ce qui ne veut pas dire qu'ici ou là, il n'y a pas des personnalités.
Tous les gens qui font alliance avec le MoDem qui ne vont pas vous suivre vont gonfler le MoDem.
D'accord, mais personnellement, je ne pense que c'est le truc. Deuxièmement, il ne suffit pas de dire qu'on veut rassembler la gauche, si au sein de la gauche, on ne trouve pas les moyens de faire qu'on sorte de notre mise en cause respective des uns et des autres, des suspicions, en mettant en préalable le fait qu'on se compense et bien pour la gauche. Moi, le pari politique que je fais, c'est qu'à partir du moment où toute la gauche, celle qui veut aspire à gouverner, celle qui veut s'opposer, celle qui veut proposer un espoir, est dans un même cadre politique où se retrouvent pas seulement les partis, mais aussi des tas de gens qui en ont marre de nos bagarres, etc. Et à ce moment-là, la réponse politique au regard de la situation d'urgence sociale et d'évolution du monde sera beaucoup plus conforme à l'aspiration des gens et, de mon point de vue, plus fidèle à la gauche.
Alors, ce qu'il faut dire, je pense, c'est que l'union de la gauche, ça n'est pas seulement un État, et je rejoins totalement Marine Lehmann là-dessus et Olivier Dartigol, c'est aussi une dynamique.
Voilà. C'est pas simplement une somme de partis politiques. Exactement. C'est pour ça que je trouve complètement idiot.
Et donc ça veut dire que le PS explose.
Mais non.
Ah
mais
si.
Mais
non. Si,
mais pourquoi il exploserait?
Pas du tout.
Pas
vous, ce
avez, vous avez le Parti socialiste, vous avez le Parti communiste, vous avez les Verts, vous avez les radicaux de gauche, vous avez un ensemble
la
de
LCR.
Mouvements qui peuvent pas la LCR.
Ah,
qui
pas
peuvent...
la LCR.
Mais non, mais à partir du moment où ils veulent pas se présenter aux élections pour gagner.
Mais attendez, ne,
pour
ne soyons pas obnubilés par la LCR.
C'était de la provocation
journalistique. Sur le MoDem, c'est très important. Marie-Noëlle Lienemann disait, c'est nous qui faisons exister le MoDem, et elle a tout à fait raison. Il faut faire la différence entre des personnalités qui quelquefois disent, bon ben nous on a eu tel parcours politique, aujourd'hui on décide au niveau local de rejoindre telle personne, c'est pas un parti. Par contre là où c'est un parti, et là où l'accord se fait entre la gauche au niveau local et le MoDem, je dis que c'est très grave, c'est quoi le MoDem aujourd'hui? C'est l'UDF moins tout, sauf Bayrou.
Oui, voilà. C'est une assez bonne définition.
Voilà.
Oui.
Et jusqu'à preuve du contraire, localement, lui-même n'est pas capable de donner une orientation claire à ses camarades localement qui font ce qu'ils veulent. C'est Génération Écologie dans les années 80, le MoDem. C'est Génération Écologie, oui. C'est-à-dire vous en retrouvez à gauche, vous en retrouvez à droite. Dans 80% des cas, ils sont divisés en deux, c'est une marque.
C'est Glenn Royal dit avec
Bayrou,
j'aurais
gagné.
Puisqu'on
est sur BFM, la radio de l'écho, vous savez qu'une marque,
une
marque, c'est surtout du good behavior, entre guillemets. C'est-à-dire c'est une image et c'est du virtuel. Aujourd'hui, le MoDem est un parti virtuel et donc pas de connexion avec le MoDem.
Ok. Ok, c'est très très clair. Qui veut rajouter quelque chose, Olivier d'Artigol?
Parce qu'il n'est pas clair sur son programme.
Mais écoutez, ouais. Vous bon, savez,
vous aussi
pour
le
identifier...
Le MoDem Seignette,
on,
vous l'avez
on
dit.
Le connaît bien, le Béarnais qui est monté à Paris. Mais on est en train de s'occuper sérieusement de lui sur Pau parce qu'il avait le sentiment que l'élection
on
était jouée.
On s'occupe sérieusement de lui.
Oui, parce que c'est insupportable aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre promise. Une campagne municipale, on le sait bien ici, c'est ouvert. Et il faut du débat. Et François Bayrou pensait il y a encore un mois que l'élection était réglée à Pau. Et voilà qu'il trébuche très sérieusement. Je vais vous donner juste une anecdote de campagne. Il a commencé en proposant, parce que moi je suis pour qu'on reconstruise des repères dans ce pays, des valeurs. Et il a commencé sa campagne municipale à Pau en proposant la privatisation de la régie municipale de l'eau. Qui était un acquis très fort des années André Labarrère et qui est véritablement un marqueur de ce qui est une gestion de droite ou une gestion de gauche. Donc on est en train de requalifier un peu Bayrou. Il peut perdre dans la seconde ville d'Aquitaine. Et ma foi, on fait grand cas du MoDem, mais on verra après ces élections que le MoDem, si jamais ce n'est pas sous perfusion... de certaines personnalités socialistes, cette recomposition politique fera long feu et on pourra enfin reconstruire des repères. Sarkozy a fait très mal, il a été assez habile pour ce brouillage des repères des valeurs et de l'histoire. Devant la gauche, il y a nécessité de reconstruire ces valeurs.
Absolument.
On marque une dernière pause, suite et fin de ce débat dans un instant.
Émission spéciale sur BFM Radio.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
Événement exceptionnel jeudi dans 01 Business. Je reçois les lauréats des 3e trophée Technologia de l'innovation. Chaque année, le magazine 01 Informatique couronne des personnalités, des startups, des entreprises et des écoles d'ingénieurs. Nous vous expliquerons comment l'innovation les rend plus compétitifs sur leur marché. Les trophées Technologia jeudi dans 01 Business.
Chaque jeudi à 23h sur BFM Radio, 01 Business, l'entreprise face aux nouvelles technologies. BFM, la radio de l'écho.
Il est 10h45, les marchés financiers avec Guillaume Sabrer.
Le CAC 40 efface sa perte de vendredi. Il gagne 1,6% actuellement, 4847 points sur des achats à bon compte, tout simplement. A noter que Wall Street restera fermé aujourd'hui pour cause de President's Day. Alors, du côté des valeurs, la plus forte hausse, c'est Suez, plus 3%, 42,50€. Meilleure performance du SRD, Ipsos, plus 3,7 à 18,50€. Altran prend également 3,9 à 4,60€ après un relèvement de recommandations. De Richebourg prend 3,8 à 3,80€. Et puis TF1, plus 3,6. TF1 présentera après-demain ses résultats annuels. En repli contre la tendance, Thomson, une nouvelle fois, moins 3,6% à 5,90€. Et sur le CAC, Société Générale et Lanterne Rouge, moins 0,8 à 75,70€. Le CAC gagne 1,6%. L'euro vaut 1,4629.
Tous les quarts d'heure, un point sur les marchés boursiers, uniquement sur BFM Radio.
10h46, les grands débats continuent en direct.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
Comment réunir la gauche sous un même toit, c'est le thème de ces débats après l'appel lancé par Paul Quillet et Marie-Noëlle Lienemann pour un parti de gauche. Alors Marie-Noëlle Lienemann défend l'idée d'un parti de gauche. Razi Hamadi qui est avec nous, secrétaire national du PS à la Riposte, candidat à Orly et co-auteur de La gauche la plus bête du monde, point d'interrogation, aux éditions FEDGEN. Lui est plutôt pour l'idée d'une fédération. Également avec nous Olivier Dartigolle, porte-parole du Parti communiste, candidat à Pau, qui lui n'est pas contre l'idée mais attend que son parti prenne une position vraiment définitive.
Non, je peux vous exprimer mon idée plus précisément.
Vous avez quand même pas dit concrètement ce que le PC allait prendre comme ligne vis-à-vis d'une telle proposition.
Les communistes sont souverains, ouais. Ils ont un congrès voilà. En décembre.
Les communistes sont souverains, c'est ce que je voulais dire. Et Marie-Noëlle Lienemann.
Mais j'ai proposé au moins les fronts de riposte et de construction les plus larges. L'idée des fronts me semble intéressante pour la prochaine période, notamment pour les européennes.
Qui est donc eurodéputée et qui est deuxième de liste à Hénin-Beaumont, notamment, enfin Pas-de-Calais, face à notamment Marie-Noëlle.
Non, vous ne confondez pas les gens.
Ouais. Marine Le Pen, bien sûr. Non, mais je pense que cette ville-là, les gens auront corrigé de même. Être de gauche en 2008, qu'est-ce que ça. Alors, les idées de la gauche. Est-ce que défendre des idées de gauche, c'est défendre les 35 heures, l'ISF, l'État-providence? Razi Hamadi, c'est quoi aujourd'hui? Si vous voulez défendre, c'est quoi? C'est contre le libéralisme?
Mais pourquoi cette caricature permanente qui vise à décrire...
L'ISF, les 35 heures, l'État-providence, c'est pas de la caricature.
Non, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un de gauche...
Le salaire au mérite, c'est pas de la caricature.
C'est pas forcément quelqu'un qui est contre quelque chose. Être de gauche, pour moi, c'est être pour quelque chose. D'accord. Et déjà, c'est être pour autre chose. Déjà, je pense que le point de départ...
Ça, c'est des mots,
Razi. Non, le point de départ de la gauche, c'est de considérer que les... Enfin, et là, pour le coup, c'est la définition de Blum. C'est-à-dire, les choses sont ainsi et on ne peut pas faire autrement. À partir du moment où on n'est pas d'accord avec ça, on commence à être de gauche. C'est le début de la gauche. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans notre pays, Marie-Noëlle Lienemann disait « Notre pays est riche ». Oui, en effet, il est riche. Et il est aussi riche en pauvres. Et si on n'accepte pas ça... C'est le début de la gauche. D'accord. Ce que je veux vous dire très simplement, c'est ensuite concrètement. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un système économique très simplement qui vise à avoir une croissance infinie alors que les ressources, elles, sont finies. Donc déjà, si nous sommes ceux qui comprenons ça et qui portons une alternative dans ce domaine, c'est la gauche. Deuxième chose, je pense qu'il y a 3-4 thèmes qui ne sont pas à rénover. La question de la répartition, la question de la fiscalité. Il n'y a pas 36 solutions sur la fiscalité, hein. Ou on taxe les riches ou on taxe les pauvres. Ce gouvernement taxe les pauvres.
Ou on crée de la richesse en libérant un peu les...
Oui, mais pour taxer, il faut créer les richesses. Et donc, il faut investir.
Oui, mais si on ne libère pas un peu le carcan
des
PME, est-ce qu'elles vont créer de la richesse?
Si vous discutez avec les PME aujourd'hui ou avec des économistes un petit peu sérieux, ils vont vous dire que ce qui pèse dans notre pays, c'est bien plus le manque d'investissement lié aussi au fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur du paquet fiscal continu depuis 2002 que... véritablement les carcans qu'on ne cesse d'ailleurs de déchirer et qui pour le coup n'ont pas produit. Vous savez, sur les 35 heures, on en est à la quatrième loi.
Oui, non, mais je ne parle pas les effets de seuil, par exemple, les seuils sociaux. C'est pas une mauvaise idée de les supprimer, les seuils sociaux.
Comment ça, supprimer les seuils sociaux? Alors, quels seuils sociaux vous voulez prendre?
Le passage de 19 à 20, le passage de 49 à 50 personnes.
Comment ça, vous supprimez les seuils? Bon, alors,
je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'a fait le gouvernement.
Et c'est pas encore fait.
S'ils l'ont fait pour les entreprises de moins de 50 salariés, pour les jeunes de moins de 25 ans qui n'étaient pas comptabilisés dans le quota des 50 donner lieu à représentation syndicale.
Ça,
parce que quand vous faites sauter les quotas, non, c'est pas particulier.
Si.
Ce que vous faites pour les ce qu'ils ont fait pour les jeunes hier et qui a été remis en cause, écoutez-moi bien, c'est ce qui sera généralisé pour tous. Lorsque vous faites exploser les seuils, comme vous me le dites, ça a une incidence en termes de droits sociaux, en termes de droits syndicaux. Et aujourd'hui, les caissières qui se mobilisent dans les supermarchés aux quatre coins de la France, malgré que quelquefois elles n'aient pas de représentation syndicale, quelquefois avec le risque de perdre leur emploi le lendemain matin, c'est qu'aujourd'hui il y a une détresse même physique.
Olivier Dartigolle, on n'a plus beaucoup de temps.
Vous posiez la question, être de gauche, vous savez, en 1936, il disait le pain, la paix et la liberté. Mais aujourd'hui, sur le pain, est-ce qu'on trouve vraiment normal l'explosion de la précarité, en particulier des travailleurs pauvres, qui tout simplement n'y arrivent plus, mais n'y arrivent vraiment plus?
Sarkozy te dit
C'est-à-dire que nous le découvrons pas en campagne électorale, mais c'est quand même des moments où nous rencontrons énormément de personnes. Je suis très 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 préoccupé par la situation d'urgence sociale dans ce pays, en particulier sur les familles monoparentales, sur les femmes qui sont seules avec des temps partiels imposés. On rend hommage aux filles qui se sont salariées, qui se sont levées dans la grande distribution, c'est très dur de s'organiser. La paix, est-ce qu'il n'y a pas besoin à gauche de reconstruire un internationalisme d'aujourd'hui face à la montée des dangers, des communautarismes? Est-ce que de gauche, c'est pas quand même apporter une vision du monde solidaire? Et enfin, sur la liberté, nous sommes quand même face à un pouvoir aujourd'hui engage vraiment... moi, je trouve qu'il souffle un vent mauvais. il souffle vraiment un vent mauvais sur notre démocratie. Le sarkozysme, ce n'est pas tout simplement une droite dure qui est aux affaires. Ce sont des évolutions politiques, institutionnelles, très préoccupantes pour la défense du pluralisme. Donc je pense que reconstruire une gauche, c'est possible, mais il faut qu'elle trouve très rapidement sa feuille de route sur ses valeurs.
Très clairement, Olivier d'Artigol, pour vous, l'avenir de la gauche est toujours à gauche. Quel est votre avis, Marie-Noëlle Lindemann ?
Moi, je pense qu'il est fondamental qu'on réécrive dans un document commun,
tous les hommes
et les femmes de gauche, une charte de l'unité, c'est dire qu'est-ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui.
Alors
il
n'y
a pas besoin non plus de réinventer toujours les évidences. Il y a évidemment des choses qui ont changé, il y a des formes qui ont changé, mais il y a aussi des fondamentaux. Je prends un exemple, la question républicaine. On voit bien avec la laïcité que déplacer la République, l'organisation des pouvoirs, pour qu'elle soit plus partagée, pour que sa valeur fondamentale aille maintenant dans le champ du social et de l'économique, ça fait partie des fondamentaux de la gauche. Donc personnellement, je pense que, par exemple, ces thèmes-là sont majeurs. Alors je vais prendre un exemple très concret d'actualité.
Ouais.
On parle des seuils sociaux. Regardez les mots que vous avez utilisés. Carcan, première bataille de la gauche, redonner des mots qui sont des mots qui correspondent à la réalité telle que nous la voyons. Car le carcan des PME, c'est aussi les banques qui aujourd'hui, avec le taux de crédit, avec les conneries qui ont été faites sur les surprimes, ne veulent plus prêter pour investir. Donc il y a aussi carcan et carcan.
C'est
donc par exemple, moi je dis, réfléchissons à comment tout salarié français doit avoir un droit à représentation syndicale. Et si on doit faire sauter les seuils, c'est pas pour imposer qu'il n'y ait plus ces règles ou qu'on monte à 50, etc. Trouvons des formes d'organisation du syndicalisme qui permet par
d'accord,
exemple
mais vous êtes pas hostile
territoire.
Voilà mais voilà
non, mais attendez, c'est pas une question d'hostile, c'est une question de quelle est la finalité. La finalité c'est tout salarié doit avoir un truc. Deuxièmement, on dit négociation dans les entreprises, on nous a vendu ça comme la solution qu'ont obtenu les malheureuses de Carrefour. Très peu de choses, quasiment rien par rapport à ce qui était légitime au regard de l'état de la situation et des profits de Carrefour et des considérables aides fiscales par allègement dit de charges qui ont été consenties à truc. Là, il aurait été nécessaire d'avoir une négociation de branche avec le gouvernement sur les aides de l'État, les conditions de travail, la redistribution des richesses et des profits, car ces entreprises-là captent le gros des aides publiques, soi-disant, soit pour le temps de travail, soit pour dire les allègements de charges. Il y a des champs où la négociation doit être toujours la plus large possible. Après, dans l'entreprise, évidemment, un peu de souplesse, on n'est pas des débiles.
Un mot de ça, nécessaire. Qui veut parler de ça ? Razia m'a dit, on a une minute, c'est l'appel du 14 février de Marianne. Il y a plusieurs personnes pour une vigilance républicaine qui signent, dont des personnes de droite.
Oui, je vais vous donner mon point de vue très rapidement, en deux secondes, pour vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus proches des PME, en termes de propositions et de politique, c'est bien la gauche. Et si on analyse les propositions, quand on voit la politique de Sarkozy, les chefs d'entreprise le savent. Deuxième chose, sur cet appel, moi je suis contre.
Vous êtes contre l'appel de Marianne ?
Oui,
on y trouve Bayrou, Villepin, Dupont-Aignan,
oui, je suis contre l'appel de Marianne. Je pense que déjà, on a besoin à deux semaines, trois semaines des élections municipales, déjà de clarté.
C'est pour ça que je vous demandais quelle était
la gauche, la droite. Et puis ensuite, tactiquement, stratégiquement et sur le fond, je pense que c'est une bêtise. Aujourd'hui, à Hénin-Beaumont, Marie-Noëlle Lindemann, elle mène une campagne politique contre Marine Le Pen, sur les propositions, sur le fond politique, et pas simplement en disant qu'il faut l'exclure du champ démocratique. Nicolas Sarkozy, la grande erreur qui a été faite avec lui, notamment pendant l'élection présidentielle, c'était de l'exclure du champ démocratique et de dire il n'est pas républicain, il est autre part. Et bien quand il est autre part, la raison n'a plus d'effet sur lui. On est dans l'irrationnel, et ceux qui ont cru en lui, ben vous n'arrivez plus à les convaincre. Je pense que c'est une bêtise. Avec Nicolas Sarkozy du pouvoir d'achat, parlons avec Nicolas Sarkozy de sa politique étrangère, et soyons dans le domaine de la raison, il est quand même le président de la République.
On va suivre en tout cas cet appel lancé par Paul Kelly. C'est Marie-Noëlle Lindemann. Vous reviendrez très certainement en parler sur l'antenne de BFM. Merci Marie-Noëlle Lindemann et bon courage donc à Hénin-Beaumont où vous êtes deuxième de liste, eurodéputé socialiste. Razia Hamadi, merci d'avoir été avec nous. Il est candidat à Orly et il publie La gauche la plus bête du monde, point d'interrogation, aux éditions FedGen. C'est un livre d'entretien entre Razi et Claude Villers. Et puis Olivier d'Artigol, merci d'avoir été avec nous. Porte-parole du PCF. Voilà.
Hein,
il est candidat, lui, au municipal à Pau.